pour l'info. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Il est aussi outrancier sur Twitter qu'elle est discrète partout. Donald Trump est chez la reine d'Angleterre. 3 jours de visite d'État en grande pompe. Avec les sorties du président américain sur Theresa May qui a mal géré le Brexit. Boris Johnson qui verrait bien lui succéder. Et le maire de Londres, ce loser total. Nous sommes sur place dès le début du journal. Et avec ceux qui manifestent pendant tout son séjour. Le ministre de l'économie au chevet de General Electric à Belfort pour que le plan social n'annonce pas un plan de liquidation. Le groupe américain va supprimer 1 millier de postes en France, la plupart à Belfort. Au sommaire également ce soir, peu de candidats pour remplacer Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. La mort du dernier survivant du camp de Sobibor. Père et mon fils sortis, il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, en tout et désormais, il y a donc 11 Français condamnés à mort en Irak pour appartenance à l'État islamique. La question que l'on pose, c'est est-ce que nous avons le droit de les laisser exécuter? Est-ce que nous nous renions si nous le faisons? Pouvons-nous commuer leur peine en perpétuité? Ou est-ce que leur crime, leur profil nous autorise à nous en laver les mains en quelque sorte? C'est avec William Bourdon que vous dialoguerez ce soir. Allez-y, 01 45 24 7000.
Il n'avait eu droit qu'à une tasse de thé avec la reine l'an dernier, alors qu'un ballon géant de lui en couche-culotte flottait près de Westminster. Cette année, c'est une visite d'État que le Royaume-Uni offre donc à Donald Trump. 3 jours en grande pompe avec repas et carrosse. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Déjeuner avec la reine, le thé avec le prince Charles et ce soir donc dîner d'État. Tout ça toujours sur fond d'amabilité du locataire de la Maison-Blanche et sur fond de Brexit aussi.
Absolument, et pourtant il a presque réussi à éviter les impairs, Donald Trump, à peine une petite étourderie cet après-midi lorsque la reine lui a montré la statue équestre qu'il lui a offert l'an dernier. Il a reconnu qu'il ne s'en souvenait pas. Mais pour le reste, les photos au milieu des coussins à fleurs du prince Charles, la gerbe sur la tombe du soldat inconnu, tout était parfait. Alors pourquoi la polémique sur sa venue prend-elle de l'ampleur? Eh bien parce qu'avant de venir ici, Donald Trump a donné son avis sur le Brexit en appelant de ses voeux l'arrivée de Boris Johnson, eurosceptique, au poste de Premier ministre, et parce qu'il a aussi traité Sadiq Khan, le maire travailliste de Londres, de loser. À gauche, Jeremy Corbyn, le chef de file du Labour, était invité au banquet donné par la reine ce soir. Il n'ira pas plus que John Bercow, le président de la Chambre des communes, ni Vince Cable, le chef des libéraux-démocrates. Au gouvernement, on tente de minimiser l'impact de ces protestations. C'est très impoli et mal calculé, lance Sir Alan Duncan, chargé des affaires étrangères, avec cette phrase bassement pragmatique. Imaginez un peu que les travaillistes arrive au pouvoir, quel serait l'état de leur relation avec les États-Unis?
La famille royale poursuit donc son accueil à l'avenant. Merci Antoine Gignot. Et le président américain est sifflé par les Britanniques. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Sébastien.
Vous êtes à Londres, vous aussi. Ceux qui ne veulent pas de Trump en Grande-Bretagne sont invités à manifester demain à Trafalgar Square et ce soir près du palais de Buckingham où vous êtes.
Eh oui, ils sont quelques dizaines, 200 peut-être, à s'être rassemblés dès ce soir, en effet, non loin de Buckingham Palace. Vous entendez peut-être leur slogan derrière moi. On voit une petite forêt de banderoles. Non au racisme, non à Trump, stop à l'escalade nucléaire, ensemble pour la justice climatique. C'est ici la gauche et les écologistes qui se mobilisent, hein, mais le sentiment qui semble prévaloir parmi la population, sans être toujours ouvertement hostile, n'est pas loin, sans faux, des plus amicaux à l'encontre du président Trump. Ses interviews dominicales, les tweets matinaux ont fait leur œuvre. Et quand on interroge les Britanniques, mais aussi les touristes américains qui déambulent à pied dans ce secteur sous haute sécurité des institutions londoniennes, eh bien, il est difficile de trouver des fans de Donald. Les honneurs et la pompe britanniques sont donc au rendez-vous avec flonflon et bonnet en poil d'ours des gardes royaux, tout de rouge vêtu. Voilà pour la jolie photo, en effet, à l'image du mall, cette avenue qui relie le palais royal à Trafalgar Square, qui arbore les couleurs britanniques et américaines. Bannière étoilée et Union Jack mêlée, mais en arrière-plan, la visite du président américain est déjà chahutée, vous l'entendez. Un second rassemblement anti-Trump est prévu demain à Trafalgar Square en fin de matinée.
Et nous y serons avec vous. Merci Louise Baudet en direct de Londres avec Stéphane Beaufils. Trump sera reçu demain par Theresa May, qui démissionne vendredi, avant de participer aux commémorations de l'anniversaire du débarquement mercredi à Portsmouth, puis jeudi en Normandie. Commentaire d'Emmanuel Macron à propos du Brexit. Aujourd'hui, le 31 octobre, après la dernière échéance, dit le président français.
Lui aussi a droit à un accueil peu chaleureux.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sifflé et hué à son arrivée à Belfort, où General Electric va supprimer presque 800 postes, plus de 1000 au total en France. Le patron de Bercy est venu sur place, comme Emmanuel Macron, il y a 4 ans, pour discuter de l'avenir du site qui produit des turbines à gaz. Bonsoir Raphaël Ebenstein.
Bonsoir Sébastien.
Il demande que le plan social soit amélioré.
Je suis venu écouter les inquiétudes, résumé Bruno Le Maire à la sortie d'une longue réunion de près de 2 heures avec l'intersyndicale de General Electric Belfort, le ministre de l'économie venu aussi donc adresser un message de fermeté à la direction de l'entreprise qui a annoncé la semaine dernière un projet de plan de 1044 suppressions de postes, dont 1 000 à Belfort.
Le plan social ne va pas. Il va trop loin, il crée trop d'inquiétudes sur le maintien des compétences en matière de turbines à gaz sur le site de Belfort. Donc quand ça va pas, il faut améliorer les choses. Nous faisons un pas à GE de faire le pas suivant.
Le gouvernement espère convaincre GE de participer à un fonds d'environ 80 millions d'euros pour permettre une diversification du site dans l'aéronautique ou l'hydrogène. Un comité de suivi associant syndicats et élus locaux sera effectif en septembre, sans convaincre une grande partie des 500 manifestants venus accueillir à leur manière Bruno Le Maire sous les cris et quelques huées. Donc parmi eux, Yannick, qui ne fait plus confiance ni à l'État ni à GE.
Arrive un moment, les promesses, il faut les tenir. Il y en a marre d'avoir de belles promesses, de vaines promesses, et puis de voir que finalement, ça finit sur une casse générale, quoi.
Déception plutôt de mise aussi parmi les syndicats qui pourraient appeler à des actions prochainement à Belfort pour demander le retrait pur et simple du plan de restructuration annoncé.
Raphaël Ebenstein en direct de Belfort avec Hélène Langlois. Merci à tous les deux. Autre site, la plus grosse usine de Nutella au monde, bloquée depuis 6 jours, l'usine Ferrero de Villers-Écalles en Seine-Maritime. 600 000 pots par jour, un quart de la production mondiale. 160 des 400 salariés sont en grève. Ils réclament une hausse des salaires de 4,5% et une prime de 900 euros.
Qui pour enfiler la parka rouge de Laurent Wauquiez
et devenir le nouveau chef de la droite en lambeaux une semaine après l'échec historique aux européennes. Bureau politique demain, Jean Leonetti assure l'intérim en attendant l'élection d'un nouveau président des Républicains, au plus tard en août, d'après les statuts. Bonsoir Maxence Lambrecht.
Bonsoir.
Sauf qu'on ne se presse pas au portillon pour prendre le poste.
Hein. Et soudain, c'est le désert. Il avait une armée d'opposants, mais aujourd'hui, très peu de postulants chez les ténors. Xavier Bertrand ne croit plus au parti traditionnel. François Baroin se plaît à la tête de l'Association des maires de France. Gérard Larcher veut lui aussi rester au-dessus de la mêlée, patron du Sénat. Quant à Valérie Pécresse, elle n'a visiblement pas très envie de s'abîmer rue de Vaugirard avant 2022. À chaque jour suffit sa peine, dit-on dans son entourage. Et de toute façon, elle ne réunira jamais une majorité de militants, constate un cadre du parti. Car en effet, tout le monde a l'air de plaider chez LR pour un changement de ligne, un recentrage. Mais si l'on suit les statuts, ce sont les adhérents du parti qui fixent le cap. Wauquiez s'en est allé, les militants sont restés, résume un proche de l'ancien patron. Et c'est pourquoi Éric Woerth, Jean-François Copé et d'autres plaident en ce moment pour une direction collégiale, une longue période d'intérêt. Redonner la main aux militants, c'est offrir un boulevard à Bruno Retailleau, résume un cadre. Le sénateur, patron de Force Républicaine, correspond effectivement très bien au profil des militants LR, contrairement à Geoffroy Didier ou Guillaume Pelletier. Mais ce serait bis repetita, une sorte de nouveau Bellamy que beaucoup de cadres et de jeunes redoutent. Ils préféraient alors quitter le navire que de refaire du neuf avec du vieux.
Maxence Lambrecht à gauche, le patron du PS Olivier Faure met en garde Yannick Jadot, le député européen Europe Écologie Les Verts dont la liste est arrivée troisième et qui veut créer un parti de gouvernement plus large, c'était ce matin sur Inter. Personne ne peut incarner à lui seul la gauche, prévient le premier secrétaire du Parti Socialiste. La politique encore avec le retour à l'Assemblée du projet de loi d'orientation des mobilités où l'on va parler de l'assouplissement des 80 km/h, du forfait mobilité durable qui permet aux employeurs de rembourser jusqu'à 400 euros par an à leurs salariés pour encourager les trajets domicile-travail à vélo ou en covoiturage. Et où il est aussi question des taxes sur le transport aérien. Certains prônent même l'interdiction des vols intérieurs quand le trajet est possible en train, en 2h30 de plus maximum que l'avion. Proposition portée notamment Laurence Perron par l'ancienne ministre de l'écologie Delphine Batteau.
Ceux qui aiment l'écologie prendront le train, et les autres aussi d'ailleurs, si on suit cette proposition de loi. Parce qu'un aller Paris-Marseille en avion émet 50 fois plus de CO2 par passager que le même trajet en train, qui lui ne prend que 3 heures. La députée écologiste non inscrite, Delphine Batteau, soutient le texte.
Le temps pour aller à l'aéroport, le temps des contrôles de sécurité, Paris-Marseille en avion et Paris-Marseille en train, vous gagnez du temps en train.
Elle a fait le trajet là et Paris en train, l'eurodéputée néerlandaise Suzanne Kruger.
Aux Pays-Bas, j'ai déposé une proposition pour la suppression des vols d'Amsterdam à Bruxelles. Il s'agit du premier vol du monde qui sera banni pour des raisons climatiques.
Eh oui, mais on est en France au lendemain d'une défaite cruelle pour les insoumis, alors forcément la question arrive.
Est-ce que cette proposition, c'est pas aussi une façon de remettre du verre dans la machine pour relancer le moteur ? Vous, journaliste, je vous prie de faire l'effort, de se demander non pas Ruffin par rapport à Mélenchon, pourquoi Delphine Bateau allait à cette table, mais vous mettre dans cette urgence de se dire, punaise, comment mes enfants, demain, ils vont pouvoir grandir avec des hirondelles? Si vous me ramenez en permanence à l'histoire de Tambouille, vous allez faire un député qui va se barrer en plus, parce que j'ai pas envie de ça.
La sincérité écologique de François Ruffin n'est pas contestable. Il n'empêche, il y a bien un sujet, comment rebondir pour la France insoumise. D'ailleurs, la députée Clémentine Autain publie demain dans Le Monde une tribune qui devrait faire grincer pas mal de dents dans l'écosystème Mélenchon.
Génération identitaire sera jugée le 11 juillet. Le mouvement d'extrême droite est renvoyé en justice avec trois de ses membres pour les opérations anti-migrants. L'an dernier, dans les Hautes-Alpes, des patrouilles pour arrêter les réfugiés à entrer illégalement en France par la frontière italienne. Ils seront jugés pour des activités qui peuvent créer la confusion avec une fonction publique. Ils risquent un an de prison. La guerre des paillotes relancée en Corse 20 ans après l'incendie d'un de ses restaurants de plage ordonné par le préfet Bonnet. Contrôle de gendarmerie ce matin dans quatre paillotes sur la commune de Porto Vecchio, et en représailles Maxime Beckmer, des manifestants à la mairie et à la préfecture.
Le ton est monté d'un cran depuis que les services de l'État ont rendu public le verdict sur les AOT, les autorisations d'occupation temporaire des plages pour la saison 2019. Et sur 345 demandes, 81 ont été refusées, dont 70 en Corse du Sud, principalement à Porto Vecchio et ses environs. Depuis la semaine dernière, les paillotes en occupation illégale font l'objet de contrôles. Et ce matin, trois d'entre elles se sont vues consigner leur transat par le comité départemental antifraude. Xavier Delarue est le coordonnateur de la sécurité auprès de la préfète de Corse.
Par exemple, ici, on est sur une des paillotes qui a déjà été verbalisée quatre fois depuis jeudi. L'élément supplémentaire, c'est qu'on procède à la consignation du matériel de plage qui sert de support à l'activité économique illégale.
Regroupés en quatre collectifs, les patrons d'établissements de plage dénoncent une gestion calamiteuse des AOT. Ils avaient annoncé leur intention de passer outre les refus d'autorisation et toute la journée, ils ont occupé la mairie de Porto Vecchio réclamant un dialogue. César Philippi est l'un de leur porte-parole.
Nous attendons une réponse raisonnable et raisonnée de l'État. Nous allons continuer les actions où nous allons dénoncer des abus qui n'ont jamais été sanctionnés.
L'affaire prend aussi une dimension politique. Gilles Simeoni, le président nationaliste du Conseil exécutif de Corse, a écrit à la préfète et lui demande de désamorcer le conflit.
Télérama licencie deux de ses journalistes, Aurélien Ferranzi et Emmanuel Tellier, accusés d'agissements sexistes et de harcèlement moral. Après une enquête interne confiée à une cellule d'écoute extérieure au magazine dans la foulée de l'affaire Weinstein. Les deux hommes piliers de l'hebdomadaire contestent les accusations. Ils vont saisir la justice. Voilà qui nous amène à cette maison, notre maison Radio France, qui doit faire des économies, comme le réclame l'État actionnaire à tout l'audiovisuel public. Le chiffre de 22 millions d'euros d'ici 3 ans circulait jusqu'ici pour la maison ronde. Il pourrait être 3 fois plus élevé. Bonsoir Alexandra Hakoun.
Bonsoir.
La PDG, Sybille Veil, présente en ce moment son plan stratégique.
Et oui, une présentation débutée il y a 4 heures et qui n'est toujours pas terminée. Sur les économies, les chiffres étaient déjà sortis un petit peu partout dans la presse. Sybille Veil les a confirmés. L'effort ne sera pas de 22, mais de 60 millions d'euros sur 3 ans. 20 millions de baisse de dotation de l'État. 20 millions d'augmentation mécanique des charges. Plus 20 millions de financement du développement numérique. Avec en ligne de mire un défi de taille. Faire plus avec moins. La présidente, sur ce point, était très claire. Radio France doit, je cite, faire en sorte d'être leader de l'audio sur le numérique, tout en restant leader de la radio. Maintenant, la grande question, c'est où trouver ces 60 millions. Sybille Veil table sur 20 millions d'euros de recettes grâce à ses ressources, aux ressources propres de Radio France. Billetterie, mise en avant du savoir-faire, musique de film, location d'espace. Les coûts de diffusion seront baissés de 5 millions. 10 millions seront économisés en redéployant des moyens humains et matériels. Et surtout, 25 millions d'euros seront trouvés sur les charges de personnel, donc réduction de la masse salariale en perspective, sans détails supplémentaires pour le moment. Un point qui, vous vous en doutez, génère déjà ici beaucoup d'inquiétudes.
Alexandra Hakoun.
11 Français jugés en Irak.
Tous désormais condamnés à mort pour appartenance au groupe État islamique. Les deux derniers comparaissaient aujourd'hui à Bagdad. Vous y revenez au téléphone sonne à 19h20, Fabienne. Une première victoire pour Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, arrêté en avril après près de 7 ans de refuge dans l'ambassade d'Équateur à Londres. La justice suédoise avait rouvert l'enquête pour viol qui pèse sur lui. Les faits remontent à 2010. Elle refuse aujourd'hui de demander son arrestation qui aurait permis qu'il soit transféré en Suède avant la prescription l'an prochain. Lui avait participé au soulèvement le plus célèbre dans l'histoire des camps de concentration nazis, la révolte de Sobibor en Pologne le 14 octobre 43. Semyon Rosenfeld est mort aujourd'hui en Israël, il avait 96 ans. Il avait 21 ans à l'époque et il avait réussi à s'échapper avec 300 prisonniers en ouvrant une brèche dans les barbelés. La moitié avait été repris et fusillé. Semyon Rosenfeld, Étienne Monin, était le dernier survivant connu de Sobibor et un héros en Israël.
Dans l'une des réactions officielles en Israël, le président de l'agence juive souligne ce statut de héros malgré lui qu'a porté Semyon Rosenfeld après cette évasion désespérée. Avant son arrestation par les Allemands, le jeune homme vient d'Ukraine. Il appartient à l'armée russe. Il est blessé, interné dans le camp de Sobibor, épargné parce qu'il se fait passer pour un charpentier. Il comprend que ses chances de survie sont inexistantes. Dans le sillage d'un officier de l'armée rouge, il participe au plan d'évasion. Les armes viennent de son atelier. Ils attaquent des gardes avec des marteaux, des couteaux, des haches. 300 prisonniers passent les rangées de barbelés. Mais derrière, il y a un champ de mines dont ils ignoraient l'existence. Beaucoup sont tués aussi par les tirs depuis les miradors ou rattrapés dans la forêt qui jouxte le camp de concentration. Moins de 50 prisonniers vont survivre. Semyon Rosenfeld fait partie d'eux. C'est le seul groupe qui a survécu au camp de Sobibor. 250 000 juifs ont été exterminés entre avril 1942 et l'évasion qui a conduit à la fermeture du camp par les nazis. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
La contestation au Soudan sit-in depuis plus d'un mois devant le QG de l'armée à Khartoum pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils. Après la chute d'Omar el-Béchir, les militaires dispersent les manifestants qui disent couper tout contact. Il y a au moins 13 morts. On termine avec le tennis à Roland-Garros. Le tournoi est entré aujourd'hui en deuxième semaine et il n'y a plus de Français en lice. Bonsoir Fabrice Abgral.
Bonsoir.
Vous êtes toujours là, vous. Gaël Monfils n'a pas fait le poids face à Dominique Thiem.
En effet, Gaël Monfils balayé, surclassé en 3-7 par le numéro 4 mondial, Dominique Thiem. En effet, le finaliste de l'an passé, 6-4, 6-4, 6-2. Un score qui traduit à lui seul, un, la maîtrise de Dominique Thiem et surtout la domination de cet Autrichien. Impressionnant de puissance au tennis d'une extrême solidité et physiquement très éprouvant. Gaël Monfils n'était pas armé tout simplement aujourd'hui pour rivaliser. Il a été dominé dans tous les compartiments du jeu, incapable de soutenir la comparaison. Monfils a cédé tout simplement face à un joueur plus fort que lui, constat d'échec et aveu d'impuissance avec Gaël Monfils.
Dominique aujourd'hui a fait un match solide. Je pense que jusqu'au dernier point, on essaie de trouver des solutions. Moi, j'ai pas réussi à le titiller, à trouver quelque chose pour vraiment le faire des jeux aujourd'hui, quoi.
Car il ne faut pas se tromper, hein, Dominique Thiem est l'un des tout meilleurs joueurs sur terre battue, si ce n'est le meilleur, derrière évidemment Raphaël Nadal.
L'autre tricolore éliminé aujourd'hui, c'est Benoît Paire, qui lui a pourtant frôlé l'exploit face au japonais Kei Nishikori.
Ah, il est passé tout près, mais alors vraiment tout près de l'exploit, tout près d'atteindre son premier quart de finale en Grand Chelem. Benoît Paire a été battu en 5-7 par le japonais Kei Nishikori. 7 jeux à 5 dans la dernière manche, mais dans ce cinquième set, l'Avignonnais avait fait le break. Il a même servi pour la victoire à 5 jeux à 3, mais à ce moment-là, alors qu'il était sur le point de réaliser l'exploit, eh bien le Français a été saisi par la fameuse peur de gagner. Alors les joueurs de tennis savent ce que c'est, ceux qui ne le savent pas vont le découvrir. Voilà ce qu'a ressenti Benoît Paire au moment de conclure.
C'est compliqué, le bras qui passe plus, on a l'impression que même faire un service, alors que j'en ai fait des millions depuis que je joue au tennis, c'est dur, c'est-à-dire que juste mettre la balle de l'autre côté du filet, le bras est tellement lourd et la raquette, j'ai l'impression qu'elle pesait 3 tonnes. Et c'est surtout, voilà, chaque point, on se dit, oh là là, c'est dommage, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai s'est passé ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Juste qu'on a envie de poser la raquette par terre, d'appeler quelqu'un d'autre et lui dire, vas-y, joue à ma place, parce que moi, de toute façon, tu feras mieux que moi.
Alors il n'a pas posé sa raquette, Benoît Paire, mais il a laissé Nishikori en revanche aligner 4 jeux d'affilée et gagner le match. Le Japonais affrontera demain Raphaël Nadal en quart de finale.
J'ai pas trop la peur de gagner quand je joue au tennis, moi. Merci mon cher Fabrice Abgral, on se retrouve demain, programme intéressant, il y a du beau monde sur les cours, ce sera avec vous.